Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Yasmina Reza, merci d'être là. Vous êtes auteur de théâtre, romancière, actrice. Et vous êtes actuellement l'invité de la Scala Paris pour une carte blanche qui réunit la présentation de votre pièce Dans la luge d'Arthur Schopenhauer et cette lecture piano de votre récit Hammer, clavier par de grandes comédiennes, Carole Bouquet, Nathalie Baye, Emmanuel Devos, Nicole Garcia, Bulle Ogier et Josiane Stoleru. Cette pièce Dans la luge d'Arthur Schopenhauer présente quatre personnages. Il y a l'un des personnages que vous jouez, et vous êtes l'épouse d'un philosophe sur le déclin, du fait de l'âge, de la maladie, un philosophe qui s'est particulièrement intéressé à Spinoza, et finalement vous dites, Yasmina Reza, que Spinoza n'aide pas à vivre, il y a une sorte d'infériorité de la philosophie, en tout cas dans cet échange entre les deux personnages, cette infériorité de la philosophie par rapport à la littérature.
Oui, alors juste une petite remarque, il n'est pas philosophe, parce que je fais quand même une distinction entre philosophe et professeur de philosophie. Donc il a enseigné toute sa vie Spinoza, il se trouve dans une période, disons, dépressive, sans vouloir mettre un terme médical, enfin, ça ne va pas bien pour lui psychiquement. Et subitement, Spinoza, comme le fauteuil sur lequel il est assis, s'effiloche, ne tient plus. Il vante un peu ironiquement Schopenhauer, qui est son pur contraire, puisque Spinoza a créé un système terriblement optimiste. Enfin, je ne sais pas si les philosophes apprécieraient ce terme d'optimisme. En tout cas, il a tenté de laver l'homme de ses pulsions négatives et de laver l'homme de son inquiétude. Bon, alors ce qui est tout à fait le contraire de Schopenhauer qui a travaillé sur l'anxiété, l'inquiétude et le désastre tout court, enfin, de notre condition.
Et ce qui est un peu ce qui prédomine dans cette pièce au travers donc de ces échanges, puisque on voit finalement que Spinoza n'aide à rien, alors qu'aujourd'hui, le nom de Spinoza, sa philosophie, ou en tout cas ce que l'on en retient, est aujourd'hui effectivement synonyme de soutien dans l'existence, d'aide à vivre. Alors vous avez écrit cette pièce en 2006, mais déjà le nom de Spinoza évoquait cela. Yasmina Reza.
Moi, j'ai jamais pensé sincèrement que la théorie aidait à vivre. Ça me paraît une chimère incroyable, parce que la condition de l'homme est toujours supérieure à la théorie. Quand je dis condition, j'entends les nerfs, les sentiments, les déchirements internes, l'inquiétude. Il y avait une phrase merveilleuse de Deleuze à propos de Leibniz, il disait « on ne peut pas laver l'âme de son inquiétude ». Et je pense que c'est vrai. Et c'est en ce sens, pour reprendre la question d'origine que vous venez de me poser, que je pense que la littérature a cette supériorité sur la philosophie de considérer l'homme dans ses instances plurielles, c'est-à-dire toutes sortes d'instances contradictoires, petites, mesquines ou hautes aspirations, mais sans aucune hiérarchie, alors que la philosophie hiérarchise. Il y a un homme tel qu'il devrait être, et puis le malheureux qui est comme il est. Mais la littérature, non. La littérature aime beaucoup celui comme il est.
Et c'est la raison pour laquelle vous dites que la littérature... Alors, vous ne dites pas que la littérature sauve, vous dites qu'elle vous a sauvé, Yasmina Reza. Expliquez-nous pourquoi.
C'est très difficile de dire, parce que c'est vrai. C'est vrai que la littérature m'a sauvé de la vie.
Qu'est-ce que vous risquiez ?
D'être malheureuse, je pense.
Il y a dans cette pièce quatre personnages qui parlent, c'est normal, c'est une pièce, qui parlent sans s'entendre les uns les autres. On a l'impression que leurs propos se croisent et c'est une forme de métaphore, de présentation de la solitude humaine, c'est-à-dire que les gens ont beau parler de choses extrêmement intimes, très touchantes, personne n'est touché.
Alors, je ne voudrais pas qu'on puisse penser qu'il s'agit de monologues proférés comme ça dans l'air et à personne. Au contraire, ils sont vraiment écrits pour cela et il y a un émetteur de parole et celui qui écoute. Je suis persuadée que si vous interrogez les gens qui vont voir le spectacle, ils vous diront qu'ils regardent tout autant celui qui écoute, puisqu'il n'est pas du tout hasardeux, c'est pas un passant qui se met à écouter, c'est la psychiatre qui a son écoute de médecin, c'est pour le cas par exemple de scènes que moi j'aime particulièrement, que je trouve très cocasse, le personnage du professeur de philosophie, donc déprimé, et vient le voir.
Votre époux.
Oui, mon époux.
Puisque vous êtes aussi actrice dans la pièce.
Oui, mon époux, Ariel Shipman, qui est joué par André Marcon remarquablement. Il reçoit la visite d'un autre acteur exceptionnel qui s'appelle Jérôme Deschamps et qui s'appelle dans la pièce Serge Autonveille et qui est mortel, qui lui parle de la fusion Nissan Renault, qui lui parle de l'avenir du monde, de la croissance chinoise, qui lui parle et c'est un pour lui remonter le moral, pour lui dire regarde la vie c'est épatant, regarde le Charles Leclerc, il y a pas mieux, ce qui n'a évidemment aucune forme de possible
de portée en tout cas sur
aucune portée possible pour le remettre en selle, disons.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux manières de ne pas réussir à faire espérer l'autre. Il y a la première manière qui est philosophique qui ne fonctionne pas. Il y a la seconde manière qui est une sorte d'optimisme néolibéral béat avec une sorte d'espérance dans les lois du marché. Et ça aussi, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas, mais ces monologues-là sont adressés à des gens qui sont plus ou moins aptes à les entendre. C'est ça qui est très troublant dans le spectacle, et ça fait comme si c'était du dialogue, et c'est, je crois, très drôle par maints aspects.
Alors, c'est drôle notamment parce que on voit qu'il y a de profonds décalages justement dans ces différents discours où manifestement vos personnages, Yasmina Reza, n'attendent pas cela de la vie, ils attendent autre chose et on assiste à leurs désillusions respectives. C'est drôle aussi parce que il y a une description qui est une description extrêmement précise des névroses de chacun. Peut-être que c'est ça la supériorité de la littérature selon vous par rapport aux théories.
Oui, parce que l'être humain est très très complexe. Enfin, là, je pense que je dis une chose d'une grande banalité, mais il est très souvent recouvert par ce qu'on appelle la névrose. Il n'est pas capable de surmonter sa particularité névrotique. C'est très très difficile pour quelqu'un de devenir un homme idéal. Je ne pense pas que l'homme idéal, même celui qu'on projette soi-même comme étant idéal, existe. C'est pour ça que je me suis amusée aussi de faire du personnage de la psychiatre qui passe pour un sage et qui est joué par Christelle Tual, que je considère comme une actrice vraiment tout à fait rare et forte. Tout à coup, déraille elle aussi. Déraille dans un texte que je considère comme très beau et très très métaphysique, mais qui n'est pas un texte de repos, qui est un texte qui peut choquer.
Oui, on peut même dire que la psychiatre est probablement celle qui va le plus mal de ces quatre personnages, Yasmina Reza. C'est elle, en tout cas, qui a des pulsions extrêmement violentes, alors que misanthropie des autres est généralement cantonnée à leur fort intérieur, ou en tout cas à des personnages proches.
Mais je ne suis pas sûre qu'avoir des pulsions violentes, c'est aller mal. Je pense que c'est aller bien aussi. Moi, je crois à la pulsion violente. Justement, c'est intéressant que vous disiez ça. Je crois que la pulsion violente ne doit pas être édulcorée, ne doit pas être considérée dans la passion négative, pour reprendre Spinoza. C'est la pulsion violente et fait partie de nous. Il suffit de voir les enfants dans une cour de récréation et la nier. C'est très dangereux, d'ailleurs, nier tout ce qui nous consiste et qui n'est pas qui ne consiste pas à gambader dans un champ de pâquerettes est dangereux. L'homme est multiple.
Mais d'ailleurs, votre œuvre est presque intégralement consacrée justement à explorer cette part qui n'est pas vouée à gambader dans les champs de pâquerettes, c'est comme ça que vous dites.
Oui, oui. Non, c'est vrai que j'ai très peu écrit sur des gens gambadants.
Et c'est vrai aussi que finalement, dans la plupart de vos œuvres, Yasmina Reza, il est question scènes qui sont finalement des scènes assez usuelles. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui dérape et ça dérape toujours sur les nerfs.
Oui, parce que il y avait Luc Bondy qui avait
le metteur en scène.
Le metteur en scène Luc Bondy, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui avait cette formule que je trouve très juste. Un jour, il avait dit dans un entretien, que, en parlant de moi, que je faisais un théâtre de nerfs. Et j'avais trouvé qu'il n'y avait pas plus juste. C'est-à-dire, la psychiatre, dans la Luge, dit « la morale s'arrête où commencent les nerfs ». Et je pense que c'est vrai. On est bien élevé, on a décidé de se maintenir, de se comporter correctement.
Oui, c'est ce qu'on appelle la civilisation.
D'être calme, c'est ce qu'on appelle la civilisation. Jusqu'au moment où les nerfs l'emportent. Et c'est très souvent le cas pour chacun d'entre nous dans la journée. Et on les maîtrise plus ou moins.
Et justement, votre théâtre, c'est un peu un laboratoire où vous essayez de voir finalement qu'est-ce qui se passe quand les nerfs craquent, quand finalement dans un couple qui a été soudé, en tout cas en apparence, pendant un certain nombre d'années, eh bien, il y a l'homme qui s'affaisse, qui tombe en dépression, la femme qui a un rêve, celui de rencontrer un amant, n'importe lequel, pourvu que celui-ci l'extirpe du quotidien dans lequel elle est engluée, c'est ça ?
Enfin, le... la question de l'amant dans la Luge se pose en une seule ligne et sans y croire. On n'est pas du tout dans un créneau de boulevard dans cette pièce. Je crois que la question de l'amant, elle est plutôt là pour faire rire. Le personnage étant décrit comme mortel par avance. Donc...
Mais pour le reste, ce qui en tout cas est bien central dans cette pièce, c'est la désillusion et les dérapages.
Oui, et puis l'aspect déchirement de l'espérance aussi. C'est espérer quoi ? Est-ce que espérer est une... Est-ce que c'est positif d'espérer ? Il y a cette phrase que j'aime particulièrement de Borges dans un poème. Il dit « Seigneur, défendez-moi non de l'épée ou de la rouge lance, défendez-moi de l'espérance. » Et ça court sur tout le... dans tout le texte, dans tout le spectacle.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que vous disiez que la question de l'amant, elle est secondaire dans cette pièce, parce que finalement, ce qui n'est pas secondaire dans votre œuvre, c'est le fait que le couple, en tout cas, le couple bourgeois n'est pas une solution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œuvres, dans Babylone, c'était déjà le cas, l'un de vos romans précédents, Yasmina Reza, vous considérez que l'amour bourgeois est sans issue.
C'est intéressant que vous disiez ça parce que j'ai remarqué que la Luge était le condensé presque de tout ce que j'avais écrit jusque-là, bien que je l'ai écrit il y a 15 ans. C'est comme une espèce de condensé. Tout est là déjà et sera là pour toujours parce que c'est très dense la Luge. Le couple, oui, vous dites bourgeois, mais est-ce qu'il y a un autre couple que bourgeois ?
J'en sais rien, je vous pose la question, mais en tout cas, j'attends une explication, enfin, Yasmina Reza.
Le couple tel qu'il est présenté d'une manière générale, enfin, mari, femme, enfant, famille, ça peut être le tombeau de la joie, ça peut être le tombeau du bonheur. C'est pas forcément une formation de tout repos. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus à l'écriture. Et c'est un nid de conflits, d'impatience, de difficultés. Qui a décrété que cette formation était idéale et durable ? J'aimerais le savoir.
Pourquoi ça fonctionne comme un étouffoir, selon vous ? Je peux même citer une phrase de vos personnages, du personnage d'ailleurs que vous jouez, Yasmina Reza. « La vie conjugale nous a tués comme elle tue tout le monde. Et ce n'est pas la philosophie, croyez-moi, qui vous donne un coup de main dans la vie conjugale. D'ailleurs, je ne vois rien qui puisse vous sortir la tête de cette embarcation maudite. »
Oui, j'aime bien ce moment-là. Je mange des chips quand je dis ça. Bon, bien sûr, il y a toujours des formulations excessives dans mon travail. Les gens sont pas là pour dire tranquillement des vérités tranquilles et avec modération. Il n'y a pas lieu d'écrire si on n'a pas une forme de radicalité.
Non, mais enfin, c'est une radicalité à laquelle vous tenez, puisque cela fait encore une fois plusieurs œuvres où l'on voit que pour vous, la vie conjugale, c'est pas ça.
Alors,
quoi.
J'irai jamais de dire pour moi, parce que je me refuse à...
vous cachez pas derrière...
Oui, c'est si.
Que, en plus, c'est deux fois vous, c'est votre texte et c'est vous qui le jouez.
Je le joue parce que Frédéric Belli-Garcia, le metteur en scène, m'a proposé de le jouer. Mais c'est aussi un personnage. J'aime mettre ces personnages-là en scène. Ça n'a rien à voir avec moi.
Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces personnages ?
Ils sont fêlés, ils sont excessifs et ils disent certaines vérités.
Et les vérités donc que l'on voit en tout cas se dessiner, c'est qu'il faut à tout prix étouffer la bête sauvage en nous. C'est là aussi ce que dit votre personnage.
Elle dit ça en parlant de la philosophie. Elle dit que la philosophie a toujours voulu étouffer la bête sauvage.
Alors que l'art tendrait à réveiller cette bête sauvage ?
Pourquoi pas ? Moi, je pense que l'art n'est pas un élément forcément calmant.
Et justement, dans cette situation, puisque là encore, vos pièces et dans la luge, sur la luge, pardon, de Schopenhauer, évidemment, n'est pas exempte de cette configuration-là. C'est une scène qui est une scène entre gens bien éduqués, entre gens qui appartiennent à la bourgeoisie. C'est généralement ce milieu-là, d'ailleurs, qui est le milieu que vous étudiez, Yasmina Reza, dans vos œuvres. Et dans ce milieu-là, il y a toute une série de pulsions barbares qui se font jour. Barbares au sens donc où la barbarie peut être quotidienne.
Mais vous-même qui faites la matinale de France Culture, vous voyez bien que la barbarie règne et que vous, dans les annonces que vous faites le matin, vous racontez rarement de belles histoires, charmantes et délicieuses.
Bien entendu, d'ailleurs, dans quelques instants, nous allons avoir droit à d'autres histoires avec Anne-Laure Choin qui est en train de s'installer. Mais dans quelques minutes, quand nous reprendrons cette conversation, justement, Yasmina Reza, on verra de quelle barbarie il s'agit, puisque la barbarie dont parlent les journalistes n'est pas du tout la barbarie dont parlent les écrivains. Et c'est l'intérêt, justement, de vous recevoir pour que vous puissiez nous parler de l'autre barbarie, celle qui concerne notre vie privée et pas notre vie publique. On se retrouve dans quelques instants, donc, pour évoquer et dans la luge d'Arthur Schopenhauer, qui est donc en ce moment même joué à la Scala de Paris, et puis cette carte blanche avec différentes lectures, et notamment des lectures de votre récit Hammer Clavier, qui est probablement le plus personnel des récits que vous ayez fait, Yasmina Reza. Notre invité, l'écrivain Yasmina Reza, a écouté, vous étiez amusé par ce billet politique. J'aimerais bien entendre votre réaction à cette actualité qui est une actualité assez éloignée de votre pièce dans la luge de Schopenhauer. Mais justement, quel est votre regard sur ce type d'actualité, Yasmina Reza ?
Ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'est la vidéo dans le salon. Et la ministre qui répond dans le salon, c'est très théâtral, ça. Vous mettez ça sur une scène de théâtre, ça marche très très bien. C'est parce que c'est de la mise en scène. Il y a du dérisoire, il y a de la communication un peu ratée, il y a beaucoup de ridicule. En fait, ce qui est toujours intéressant, c'est que les choses de la vie courante, si vous les transposez sur un plateau, deviennent facilement ridicules.
Mais c'est probablement pour ça qu'on est toujours un peu intimidé en face de vous, parce que vous savez dénicher où est le ridicule. Parce que moi j'ai en tête, et j'imagine que Frédéric Saïs là aussi, le livre que vous avez consacré à la campagne de Nicolas Sarkozy, qui est pour moi l'un des plus grands livres qu'on ait écrit sur une campagne politique. Je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric.
Je suis d'accord, l'aube, le soir ou la nuit, il faut citer.
Voilà, c'est ça, oui.
Et justement, dans ce livre, alors il y a par exemple une scène d'anthologie où vous décrivez Nicolas Sarkozy en train de lire Le Figaro, et il est question d'Ahmadinejad, et en fait c'est pas du tout l'Iran qui l'intéresse, c'est une publicité pour Rolex. Vous avez pris du plaisir en écrivant ce livre ?
Ah oui, j'ai adoré écrire ce livre. C'était une année fantastique, cette campagne. La campagne 2006, bon, pour plein de raisons évidemment, mais j'avais aussi un modèle très intéressant.
Qu'est-ce qu'il avait justement de plus intéressant que les autres, ce modèle-là, autrement dit Nicolas Sarkozy?
Je pense qu'il n'était pas formaté. Le modèle Sarkozy de 2006, c'était un modèle qui était d'abord... il était très peu soumis à la com. Il n'aimait pas ça. Donc il était très nature. Après, je ne sais pas du tout comment il est devenu, une fois président, et même dans, dans sa deuxième campagne, peut-être plus formaté. Mais la première, il avait une équipe de gens assez sympas autour, qui étaient à l'instinct, beaucoup, très intelligents et à l'instinct. Et lui-même très instinctif, tout pouvait arriver. c'était pas des gens prévisibles.
Vous racontez d'ailleurs dans le livre que Nicolas Sarkozy, quand vous lui soumettez cette proposition, c'est vous qui allez le voir pour lui dire « j'aimerais bien faire un livre sur votre campagne », il accepte directement, sans même réfléchir, sans consulter des proches ou son équipe de communication. À votre avis, quel intérêt y trouver là-dedans? Parce qu'il y a des coups à prendre, il y a des scènes qui peuvent être relevées, pas forcément à son avantage. Quel était son intérêt?
Alors son intérêt, il l'a dit tout de suite quand j'étais dans son bureau, c'était à Beauvau, il était encore ministre de l'Intérieur, et quand il m'a dit oui tout de suite, moi je lui ai quand même dit attention, vous savez, il y aura pas de relecture, il y aura pas, réfléchissez parce que c'est pas si simple. Et il m'a dit non, il y a aucun problème. De toute façon, même si vous me démolissez, vous me grandirez. Il m'a dit cette phrase. Et le fait est que ce qui est finalement a été assez étrange, c'est que je ne l'ai pas grandi. Je ne l'ai pas démoli d'abord, du tout, mais je ne l'ai pas grandi non plus. Je pense que c'est ça qui a été gênant pour lui dans ce livre. C'est que c'est pas un livre de cette nature-là. C'est pas un livre qui va ni démolir, ni grandir un personnage. C'est un portrait personnel que moi j'ai fait.
Il voulait que quelqu'un peut-être sculpte sa conquête.
Tout simplement, je ne sais même pas s'il voulait quoi que ce soit. Il m'a dit oui parce que il est à l'époque, maintenant je ne le connais plus, c'était quelqu'un de libre et qui s'est dit ben pourquoi pas.
Mais alors, maintenant j'ai une interrogation, Yasmine Arisa, parce que Emmanuel Macron est, en tout cas de l'extérieur, moi je ne suis pas romancier, mais j'ai l'impression que c'est un personnage extrêmement romanesque et j'ai lu qu'il ne vous intéressait pas tellement.
Non, le parcours est romanesque, c'est sûr. C'est inattendu ce qu'il a fait, c'est courageux, il y a un tempérament derrière tout ça, ça je veux pas. Il n'est pas romanesque pour moi. Je pense que chaque écrivain a son panthéon de personnages idéal.
Justement, c'est ça que j'aimerais comprendre, qu'est-ce que ça veut dire romanesque pour vous, puisque c'est vous la romancière?
Je pense que les personnages, pour prendre des grands illustres qui ne sont pas moi, les personnages de Dostoïevski ne ressemblent en rien aux personnages, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de Marguerite Duras. Enfin, c'est le tempérament des personnages d'un écrivain. Et c'est ce qui fait, avec le style, la nature même de l'écrivain. Vous prenez le personnage de Thomas Bernhard, ce personnage très ratiocinant, très moitié fou, très, très obsessionnel, très un peu fêlé.
C'est aussi un peu vos personnages, tout ça.
J'ai une parenté avec ce que je fais. Vous prenez les personnages de Jean Giono, que par ailleurs j'aime énormément aussi, c'est à l'opposé. Je ne saurais pas quoi faire avec un Macron. D'abord, je ne le comprends pas, je ne le sens pas. Pour en revenir au nerf, je ne sais pas où sont ses nerfs.
Oui, puisque vous considérez que vous placez toujours une partie de vous-même, pas entière, mais une partie dans vos personnages, que vous aviez la possibilité d'avoir d'autres
moi. Tout le monde fait ça. C'est tout écrivain sérieux. Tout
écrivain sérieux. Ni moi-même, nous sommes écrivains.
Si on doit enlever sa propre subjectivité, on n'écrit rien du tout. On est forcément impliqué.
Mais alors, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout Macron, alors que vous êtes un peu plus Sarkozy.
Je ne parle pas d'un point de vue politique, là.
Personne n'a parlé de politique, sauf Frédéric, il y a quelques instants.
D'un point de vue de la texture du tempérament, certainement.
Mais lorsque vous appréciez, par exemple, la littérature russe, puisque je crois que l'une de vos formations, elle s'est faite chez Tchekhov, chez les grands Russes, comme on dit, lorsque vous les avez lus, lorsque vous les relisez, justement, ce qui est intéressant chez eux, dans ce que vous leur trouvez de romanesque, c'est cette manière qu'ils ont, en quelque sorte, de tirer, comme vous dites, vers les nerfs, vers une forme de folie.
De démesure.
Et cette démesure, justement, elle vous permet de comprendre quoi ou qu'est-ce qu'elle rend obscur sur la nature humaine, puisque finalement, les romanciers sont peut-être pas là pour comprendre.
On est là pour poser des questions. On n'est certainement pas là pour répondre. Et les êtres démesurés, comme il y a chez les Russes, comme il y a chez Shakespeare, comme il y en a aussi dans les grands Américains, y a une forme de catharsis qui est plus simple avec les êtres démesurés, parce qu'on se dit, c'est nous en plus grand, mm-hmm. en plus fort, en plus dément, en plus violent, et on peut à la fois se reconnaître et se protéger à travers ces personnages-là, mais aussi pour un écrivain, ils sont merveilleux à expérimenter. Vous voyez, c'est quand même écrire, c'est expérimenter des potentiels humains pour soi. Donc je m'amuse beaucoup avec des personnages un peu démesurés, un peu.
Mais ça veut dire que on met de côté sa propre vie quand on écrit. Ça veut dire que on peut vivre d'autres vies.
On met pas de côté sa propre vie, je crois pas, mais on peut vivre d'autres vies avec les potentialités qu'on a et que la vie même ne nous permet pas d'exploiter. Moi, dans les personnages qui, par exemple, n'ont pas les mêmes opinions que moi, il y en a plein dans ce que j'écris, je me retrouve vite à pouvoir défendre leurs opinions comme si c'était les miennes. C'est d'ailleurs très troublant. C'est pour ça que demander l'avis d'un écrivain sur les choses en dehors de ce qu'il produit est ridicule, n'a aucun sens, parce que on met en scène des instances contradictoires avec lesquelles souvent on se retrouve plus ou moins d'accord, alors qu'on ne le serait pas idéalement dans la vraie vie.
Bon, mais il y a quand même là aussi des thèmes qui reviennent dans votre œuvre. Alors, on a évoqué tout à l'heure le naufrage du conjugo chez vous, qui est une constante, l'obsession de la mort.
Oui.
L'obsession de la mort, ça c'est quelque chose d'en grande partie biographique, Yasmina Reza.
Oui. Oui, mais bon, l'obsession de la mort, qui ne l'a pas, enfin, je sais pas, c'est quand même.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, donc.
Oui, mais l'obsession de la mort, tout est à l'aune de la mort. On ferait rien s'il n'y avait pas la mort. On ne serait pas obsédé par la création, on ne serait pas obsédé par le temps, on ne serait pas obsédé par l'amour, on ne chercherait pas à être heureux s'il n'y avait pas la mort, je pense même.
Dans les écrivains, justement, qui vous ont fasciné, probablement nourri, il y a Imre Kertész, peut-être le présenter en quelques mots, Yasmina Reza, et dire, alors, la mort est au cœur de son œuvre, puisque c'est un écrivain d'après la Shoah, un écrivain dont l'œuvre est en quelque sorte construite sur la Shoah. Yasmina Reza, présentez-nous justement Imre Kertész et dans quelle mesure son œuvre vous a fasciné.
Alors, moi j'étais plutôt fascinée et amoureuse d'Imre lui-même que de son œuvre, enfin du couple Imre et Magda Kertész, qui étaient des gens tout à fait extraordinaires et dont la mort m'a incroyablement peinée. Mais ce que j'ai trouvé très très intéressant littérairement chez Imre, il sort des camps, il a 14 ans, où il a eu la chance de ne pas mourir et d'être mis dans un camp de travail, enfin de. Et il se retrouve dans une Hongrie qu'il ne reconnaît absolument pas. Moi, ça m'a touchée parce que ma mère est hongroise. Et il déteste cette Hongrie. Et il a comme la nostalgie du camp. Et c'est d'une audace folle d'écrire ça. C'est incroyable. Et c'est tellement juste la façon dont il l'écrit. C'est tellement humain, c'est tellement en contradiction avec toute la bonne pensée qu'on peut avoir, d'un côté le mal et de l'autre côté le bien. Chez Imre Kertész, il n'y a absolument pas cette séparation nette entre le bien et le mal, et cet écrivain est passionnant de ce point de vue.
C'est-à-dire que c'est une écriture très audacieuse, selon vous ? C'est ce que vous attendez d'un écrivain ?
Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. J'attends de l'audace, j'attends d'être déséquilibré, de pas être tranquille, d'être oui bien sûr, sinon à quoi bon écrire si c'est pour
être conforté.
Oui c'est ça, enfin on pourrait dire c'est bien une écriture du réconfort, mais moi c'est pas celle-là. C'est le réconfort, moi je le trouve dans le miroir.
C'est-à-dire
des gens qui me présentent bien le non-confort. Je me dis, j'ai des frères, j'ai des frères humains. Si je me reconnais quelque part, même dans une littérature extrêmement pessimiste, je suis heureuse de trouver un frère ou une sœur qui me parle de cette manière-là.
Mais c'est étrange parce que vous avez énormément de succès. Art est, je crois, l'une des pièces les plus jouées au monde, Yasmina Reza. Et littérature. Alors c'est très difficile de réduire en quelques thèmes votre œuvre, mais on peut dire malgré tout que ce n'est vraiment pas une littérature de la consolation. C'est au contraire une œuvre assez acide sur le genre humain, alors même que les tendances, c'est plutôt ce qu'on appelle le self-help, c'est-à-dire une littérature positive, une psychologie positive. Vous êtes tout le contraire de ça.
Oui.
Comment vous expliquez alors que cette littérature touche autant de gens et aujourd'hui cette audience-là ?
D'abord parce que je pense que c'est très difficile d'expliquer le succès soi-même, c'est presque grotesque de le faire, mais il y a quand même l'aspect du rire qui, dans tout ce que j'ai écrit, même les choses les plus sinistres et les plus pessimistes sur le genre humain et sur les... C'est drôle, parce que je crois que la dimension de rire est la chose la plus merveilleuse que nous puissions avoir, et de rire de la catastrophe, et le meilleur rire, le rire de la catastrophe, c'est le grand rire. Et je crois que j'ai cette faculté dont je ne me vante pas, parce qu'elle est très inhérente à moi-même et dans la vraie vie aussi, de pouvoir rire de tout, y compris des choses terribles. Et je suis arrivée par chance à pouvoir mixer ça dans la littérature ou dans le théâtre. Donc les gens rient, et ce rire est libérateur, il est joyeux, il n'est pas du tout sinistre.
C'est pas si grotesque d'analyser son propre succès, puisque j'ai lu que vous étiez véritablement désireuse, je sais pas quel verbe employer, mais peut-être d'être reconnue dans le domaine des lettres, que cela faisait partie de vos souhaits et que vous aviez produit un certain nombre d'efforts pour y arriver. Je me trompe, Yasmine Areza ?
Il y a deux choses là-dedans. Moi, je n'ai jamais fait d'efforts pour être reconnue moi-même. La célébrité en tant que personne ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs.
Je parlais de votre œuvre, je ne parlais pas de
voilà,
votre personne.
Voilà, de l'œuvre. Non, mais ce sont deux choses différentes. Oui, j'ai toujours voulu que... être lu, être entendu, être vu, puisqu'il s'agit majoritairement au départ de théâtre, ça n'a pas de sens d'écrire si on ne veut pas être entendu et vu. Il se trouve que j'ai eu la chance énorme que ça marche.
Mais... C'est pas uniquement la chance. Vous avez fait des choix, fait des choix même assez précis. On va écouter un extrait d'Art qui est la pièce qui vous a fait connaître dans le monde entier.
Serge vient de s'acheter un tableau.
Ah bon ?
Mmh.
Beau ?
Blanc.
Blanc ?
Blanc. Représente-toi une toile d'environ 1m60 sur 1m20. Fond blanc. Entièrement blanc. En diagonale, de fines rayures transversales blanches. Tu vois ? Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas.
Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc. C'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde.
Un extrait d'Art, votre pièce, Yasmina Reza, vous êtes notre invitée pour une autre pièce dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Et c'est cette pièce, elle-là, dans une archive de 1994, on a reconnu la voix de Fabrice Lucchini, elle a été jouée par Pierre Arditi et également Pierre Vanek. C'est cette pièce qui vous a fait connaître. Et quand je disais tout à l'heure que vous étiez donné les moyens, vous avez par exemple écrit cette pièce en pensant à des acteurs bien précis, et vous avez reconfiguré leurs propos pour que ceux-ci acceptent le rôle. Expliquez-nous, moi je sais quelle est l'histoire, mais il faut que vous l'expliquiez aux auditeurs qui ne la connaissent pas.
Non, j'ai écrit cette pièce pour eux, parce que je les connaissais, j'avais joué avec chacun d'entre eux, comme actrice, et je les aimais beaucoup tous les trois, ils se connaissaient eux aussi, et donc on a fait une première lecture. Et cette lecture marchait pas. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que j'avais presque de la certitude sur la pièce. Bon, il y avait une petite accroche au milieu qui fonctionnait pas, mais c'était rien. Il fallait que je réécrive une page ou deux. C'était pas, mais ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais parce que je les ai pas mis dans les bons rôles. Et on a refait une lecture et on a inversé tous les rôles. Et ce qui fait qu'ils ont joué la pièce, pas du tout dans les rôles pour lesquels moi, j'avais, dans mon imagination, pendant que j'écrivais, prévu de pour eux.
Et donc, ils ont accepté. Mais alors, le fait que, parce qu'avant d'écrire, vous destiniez a priori au métier d'actrice.
Oui, ben j'ai fait l'école Lecoq, qui est une école de formation d'acteurs. Ensuite, j'ai joué pendant 5 ou 6 ans sans penser à écrire. Et puis un beau jour, je me suis dit non, il faut aussi que tu fasses quelque chose de plus créatif, que tu sois pas en train d'attendre qu'on vienne te chercher. Et je me suis mis à écrire pour le théâtre.
Et justement, le fait que vous ayez été actrice, est-ce que ça ne vous aide pas à mieux écrire pour le théâtre?
Non, mais énormément. C'est fondamental. Je pense même que cette expérience est essentielle.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Mais parce que, d'ailleurs, je pense que les grands auteurs, dans lesquels je n'ai pas la prétention de me mettre, mais,
non, mais
je parle
vous
des
y
autres,
mettre.
Sont tous passés par le théâtre. Parce que quand on sait comment on joue, on sait le peu d'importance des mots. On sait que les mots ne servent qu'à jouer par ailleurs, qu'à jouer les sous-mots, qu'à jouer les silences, qu'à jouer tout ce que les mots ne portent pas en eux. Et souvent, les écrivains de littérature qui se mettent à écrire du théâtre, ou ceux qui écrivent directement du théâtre sans expérience de scène, écrivent trop, étouffent l'acteur.
Et le fait qui a lancé Art, là aussi c'est une histoire quand même très étonnante, Yasmina Reza, c'est le fait que Sean Connery ait voulu transformer Art en film et vous avez dit non.
Oui, parce que j'ai senti qu'avec cette pièce, il y avait 3 rôles majeurs, des grands acteurs pouvaient s'y intéresser. Je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de pouvoir être montée à l'étranger. Parce que un auteur de théâtre, c'est pas un auteur régional, c'est un auteur mondial, un auteur de théâtre. C'est quelqu'un qui doit se confronter à d'autres langues, d'autres cultures. Moi, je savais ça. Et avec Art, j'en voyais la possibilité évidente. Donc, le cinéma aurait bouché ça.
Vous pensiez à qui? Vous pensiez à des gens, je ne sais pas, des auteurs comme Pinter, par exemple?
Oui, c'est ça. Les auteurs que moi j'admirais étaient tous des étrangers à l'époque. Il y avait les grands Allemands, il y avait évidemment tous les auteurs anglo-saxons. Pinter, Mamet, enfin là, il est tôt ce matin, je vais tout à coup plus savoir citer un seul nom, mais c'était des auteurs...
Vous avez cité Thomas Bernhard tout à l'heure.
Thomas Bernhard, c'était des auteurs qui avaient tous voyagé. Et pour moi... La validité d'une pièce, elle se confronte à d'autres cultures.
Et alors, justement, peut-être, là aussi, si vous êtes, je crois, joué dans 35 pays, probablement plus d'ailleurs aujourd'hui, Yasmina Reza, ça veut dire que vous parlez à une sorte de bourgeoisie. Le terme n'a évidemment rien de péjoratif. Nous sommes des bourgeois et ceux qui vont au théâtre le sont souvent parce que vous parlez à la fois de leurs problèmes, vous parlez de leur snobisme. Art, c'est une pièce en partie sur le snobisme et sur l'art contemporain, même si celle-ci n'a pas été toujours bien comprise. Juste pour résumer de quoi il s'agissait, il s'agit donc d'un tableau blanc avec de délicats liserés blancs qui est acheté fort cher par l'un des personnages et qui suscite l'étonnement des autres personnages de la pièce. Yasmina Reza, est-ce que le fait de parler de ces problèmes, des problèmes de cette bourgeoisie, n'est pas l'une des raisons pour lesquelles vous êtes joué un peu partout dans le monde?
Très sincèrement, je ne le pense pas. Mes pièces sont jouées, y compris Art, dans le monde entier, mais y compris dans des petits villages d'Iran ou d'Inde, où il n'est même pas question d'art contemporain, et en tout cas d'une sociologie de spectateurs qui n'a strictement rien à voir avec la sociologie bourgeoise auquel vous faites allusion. Je crois que sincèrement, si je regarde, et surtout pour en revenir à la luge, si je regarde ce que j'écris, on peut dire que les questions que je pose sont plus métaphysiques, même si ça paraît prétentieux, je le dis, que sociologiquement bourgeoise.
On écoute un extrait d'Art. Le voici.
Cela dit, honnêtement, je ne suis pas sûr que cette robe de chambre soit de nature à te remettre en selle. Pourquoi portes-tu cette robe de chambre? Tu portes cette robe de chambre qui n'est pas n'importe quelle robe de chambre que tu n'as pas choisie par hasard. Tu portes ce vêtement sinistre et relâché par coquetterie inversée. Tu veux paraître laid et calamiteux.
extrait de Dans la luge.
Oui, c'est la luge, hein, c'est là, voilà, tu ne merci pas.
Je parlais d'art, donc, dans ma lancée, mais évidemment, oui, il s'agit de la luge d'Arthur Schopenhauer avec du Schubert, parce que Schubert, c'est important.
Oui,
aussi
oui,
pour
j'aime
vous.
Beaucoup Schubert, et si j'ai le temps encore une seconde de.
Même plus d'une seconde.
Ah bon, bon. Non, parce que je voudrais aussi dire que le théâtre de la Scala m'a très gentiment donné une sorte de carte blanche pour ne pas seulement faire la luge d'Arthur Schopenhauer, mais aussi des lectures piano, avec, vous l'avez dit au début, des actrices qui ont compté à un titre ou à un autre pour moi dans ma vie, qui sont Nicole Garcia, Carole Bouquet, Nathalie Baye, Bulle Ogier, Emmanuel DeVos et Josiane Stoléru, mais aussi des très jeunes et merveilleux pianistes parmi ceux qui seront les plus grands demain, qui sont Geoffroy Couteau, Gaspard Dehaene, Pierre-Yves Audic, Nathanaël Gouin, Florian Noack et Selim Mazari. Et je serais très heureuse que les gens puissent venir assister à cet objet bizarre qui est un pianiste et quelqu'un qui vient dire des extraits d'un de mes textes de façon très simple mais belle, je crois.
Vous dites d'ailleurs que la musique et le rythme a joué un rôle extrêmement important dans votre écriture, Yasmina Reza.
Surtout le rythme, enfin j'ai une écriture qui est beaucoup plus de l'oreille que du cérébral.
Quelques notes de Schubert dans la luge d'Arthur Schopenhauer. C'est donc votre pièce de théâtre dans laquelle vous jouez, Yasmina Reza.